En flux libre, Alain Devarieux, Ghislain Larose.
Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Bienvenue dans le pays d'En flux libre, un pays où il fait bon vivre libre et où l'on mange de la distribution Linux à toutes les sauces. Je l'écris, c'est pas bien, on doit toujours improviser. Bonsoir à toutes et à tous, salut Alain.
Salut Ghislain, salut à tous.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va, fatigué ouais. Hein.
Moi, je suis fatigué.
Ouais. Bah, si vous voulez un peu de précision, il est 20h43. Alors, on enregistre. En plus, on enregistre dernière nos petits copains de Linux qui, eux, ont déjà quitté les studios depuis un moment.
Oui, c'est vrai.
Oui, puisqu'ils diffusent sur 19h-20h. Donc, c'est vrai qu'on est un peu à la bourre aujourd'hui, mais pas de souci. Le quatrième épisode était bien dans les starting blocks. Trois petites nouveautés cette semaine, il y en a toujours, hein. C'est à chaque fois des nouvelles versions, des nouvelles releases. Un petit logiciel pour la route, c'est la nouvelle rubrique à la fin de cette émission, à la place du rendez-vous du libre, où l'on vous fera découvrir The Logiciel of the Siècle du millénaire qui tue. Deuxième petite nouveauté, le générique, vous avez peut-être dû vous en apercevoir qu'effectivement il y avait un tout petit générique, donc ne vous inquiétez pas, vous allez quand même devoir vous taper mon générique qui est juste après le sommaire. Été transféré ailleurs et puis troisième nouveauté, de la musique libre, puisqu'on va vous faire découvrir aussi de la musique libre à la façon un peu de nos collègues de Linux. Donc une petite musique libre, ça sera juste après le focus. Donc voilà pour les trois petites nouveautés de la semaine. En flux libre, épisode 4, au sommaire cette semaine, un petit paquet de news où l'on vous parlera de Firefox pour Android encore une fois, Cyanogen Mode, une taxe sur la copie privée, le moteur de Doom 3 passé dans le côté obscur de la force, comprendre en version GPL, en licence GPL, pardon, Wayland et la news du noyau Linux 3.2. Le focus fera un détour par la licence BSD. Licence, pas système, bien entendu. La Dégeek se fera le plaisir de vous dégeeker la couche graphique de Linux, ou plus exactement en tout cas Xorg. On prendra la route du site du jour et on s'arrêtera cette semaine chez Léa Linux. Ce n'est pas ma copine, c'est juste un site. Le point DistroWatch et la révolution Mint. C'est une révolution qu'il a dit.
C'est une révolution. Oui, Il faut tout racheter,
oui.
C'est la World Company.
Et puis en fait, il est entre quatre planches, tu parles d'une révolution, toi. Il n'a pas été enterré dans un iPod géant. Hein. Ah, ça aurait été marrant, ça, tu sais, enterré dans un iPod géant. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Je pense que... Ils n'ont pas encore pensé à ça, mais je pense qu'il y a une grosse révolution à faire dedans. Et une nouvelle rubrique, comme je vous l'ai annoncé, un petit logiciel pour la route à la place du rendez-vous du libre, et sera consacré cette semaine à WCD.
WCD.
Qui est spécialement fait pour les réseaux. Les réseaux, c'est le logiciel qui est gestionnaire de réseau, hein, au même titre que Network Manager.
Un gestionnaire de connexion.
Ouais, voilà, ouais. Mais moins buggy, évidemment. C'est parti donc pour
et
le.
Plus léger.
Voilà, tout à fait. C'est parti donc pour le quatrième épisode de nos aventures linuxiennes. Alain, c'est parti. Le générique est déjà parti dans le micro, dans le casque, mais c'est pas grave.
C'est parti.
C'est parti.
En flux libre, l'émission qui distille du libre dans tes tuyaux. Toutes les deux semaines, l'actualité du libre et de Linux. Alain Devarieux.
L'actualité, les news, en flux libre. c'est le moment des news.
Alors, mon cher Alain, on commence par les news.
Les news.
Les news. Non, non, en fait, il y avait un jingle avant, mais il faut bien vous expliquer les choses. Nous sommes totalement transparents puisque nous sommes libres. Normalement, on enregistre en fait avec... c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le générique était parti avant. Vous, vous l'entendez pas parce qu'on remonte l'émission, mais en réalité, le générique était déjà parti dans nos casques. Donc voilà, on a un petit problème encore de calage de rhythm, comme on dit. Mais tout va s'améliorer d'ici peu de temps. Et donc, en fait, normalement, vous avez un petit jingle qui dit « Les news !» En flux libre, les news. Donc, ne vous inquiétez pas, il est toujours là derrière, mais nous, on l'entend pas. Donc, ça nous fait un peu bizarre de se dire qu'on a deux, trois jingles qui vont apparaître dans l'émission. Eh bien, on commence ces news avec Firefox pour Android. Oh, Firefox pour Android. J'en avais parlé déjà la semaine dernière, notamment pour... pour vous dire qu'effectivement c'était un logiciel bon qui méritait sans doute pas mal d'attention parce que c'était un peu lourd encore hein, et que d'ailleurs il ne supportait que certaines technologies dont l'ARM version 7 de mémoire parce que je crois que la 6 ne passe pas donc en gros les anciens téléphones ne peuvent pas en profiter. Et enfin, Mozilla Foundation, pas tout à fait la même chose, a pris la décision en fait d'abandonner le XUL pour la version Android de Firefox. Le XUL,
c'est pas plus mal, hein, je pense.
Oui, je pense que c'est pas plus mal. Alors le XUL, c'est très simple, c'est un langage de description d'interface qui est basé sur un autre système de fichiers que vous, enfin système de fichiers, plutôt une extension de fichiers que vous devez connaître, c'est le XML. Mais en fait, il est réinterprété par Android. Donc le problème, c'est que tout le monde l'a vu, Firefox ou Android. Ça marche, c'est un navigateur qui marche. Le seul problème, c'est que c'est lent, très lent. Et ça dépend en plus, moi je vous dis honnêtement, j'ai un téléphone Android avec un cœur cadencé 1 giga, c'est déjà assez lent quoi. Alors je vous laisse même pas imaginer si vous avez rajouté une surcouche ou ce genre de choses là quoi. Donc on va dire que Mozilla avait indiqué justement que l'XUL était abandonné, mais il ne savait pas à quelle date. Et on a eu la surprise de voir la semaine dernière que l'éditeur a pu enfin produire une version de Firefox Android sans ce fameux XUL et qu'il a décidé de le mettre dans le circuit des Nightly. Donc il faut bien comprendre que chez pas mal de navigateurs et chez pas mal de logiciels, il y a 4 canaux. Il y a le canal normal, qu'on appelle le canal release normal, hein, sans rien du tout derrière. Il y a le canal bêta. Chez Firefox, il y a le canal Aurora. Et ensuite, derrière, il y a le canal Nightly. Par exemple, chez Chrome, parce que c'est un peu la même chose, vous avez la version stable, la version bêta, la version dev et une version qui s'appelle Canary. D'ailleurs, la version est même jaune. Alors, je pense que ça doit être à cause de ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Donc voilà. Et sur Firefox, ils ont donc intégré cette version dans les Nightly. Je l'ai téléchargé, je l'ai testé pour vous. Et effectivement, on voit que c'est plus rapide, mais il reste encore pas mal de choses à... Il reste vraiment pas mal de choses encore à faire. Le seul souci, c'est que les développeurs qui ont fait ces extensions, ils ont fait ces extensions en se basant sur XUL. Donc problème, comme il n'y a plus que XUL, eh ben, ils vont bien devoir faire quelque chose, c'est-à-dire réécrire leur extension en natif. Donc c'est un... Voilà, il n'y a plus rien. En gros, en clair, il n'y a aucune extension qui ne refonctionne en natif sur ce Firefox. Donc avis aux développeurs amateurs de refaire leur travail qu'ils avaient déjà fait avant. Et voilà, ils sont obligés de tout refaire. Donc c'est les développeurs qui devront malheureusement s'adapter. En tout cas, c'est une bonne chose ceci dit, parce que ça permettra, je pense, à Firefox de enfin se libérer au niveau de la vitesse d'exécution, de la rapidité d'affichage, de l'intégration par rapport au téléphone. Et je pense que c'est pas plus mal.
Comme tu dis, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot parce que c'est pas que XUL.
Non, il n'y a pas que XUL.
Qui est là en fait.
Ouais, voilà.
C'est un peu tout le moteur derrière qui est un petit peu.
C'est peut-être aussi.
Mais ils travaillent dessus.
Hein, y a, on sait qu'ils n'utilisent pas du WebKit, hein, c'est du Gecko. Hein, c'est le moteur Gecko, du Gecko qui a fait dire d'ailleurs à pas mal de monde que ça rame sur PC aussi. Firefox sur PC, Berk, ça rame aussi. Bon, c'est une alternative. Donc, il y a des gens qui utilisent WebKit à côté et il y en a d'autres qui utilisent Gecko. Bon, a priori, nous, on tourne sur... moi, je tourne sur Firefox, je sais pas chez, sur quoi tu tournes, mon
Chromium.
Cher Alain, Chromium.
Chromium.
Donc, moi, j'ai toujours été plus ou moins habitué à Firefox, donc ça me posait pas de problème.
Moi, j'ai arrêté Firefox
à cause de ça.
C'est trop lent, ça rame trop.
C'est possible que voilà, on n'est pas...
Trop usine à gaz.
Oui.
Et j'ai utilisé pendant assez longtemps Opera.
Oui. Pas libre.
C'est pas libre, c'est vrai que c'est dommage
ça
que
pue,
ce soit pas
c'est
libre.
C'est pas libre.
Ils en parlent de temps en temps de libérer Opera. Mais je pense pas que ça arrivera.
Non, je pense pas non plus.
Mais l'avantage d'Opera, c'est que c'est ultra rapide, quoi. C'est vraiment super rapide, Opera. Et pour ça, c'est super pratique.
Je pense, enfin, je reviens sur ta réflexion quand même tout à l'heure. Bon, tu disais comme ça qu'ils allaient peut-être pas pouvoir le libérer, mais on se rappelle quand même que c'était un navigateur qui était payant à l'époque.
Payant, oui.
Et c'est pour ça d'ailleurs que personne l'utilise.
Et oui, exact. Ouais.
Parce que
exact.
C'était payant.
Payant ou alors avec un bandeau de pub. Je me rappelle, ouais, au tout début, j'avais un bandeau de pub dessus.
Effectivement.
Il y a bien longtemps de ça.
Oui, donc voilà, on se demande après pourquoi. Mais par contre, en revanche, c'est un navigateur qui est très populaire sur téléphone portable et smartphone.
Oui.
Parce que sur Android, on apprécie vachement sa vitesse d'exécution et surtout le mode turbo qui permet de compresser tout ce qui est image et chose très très lourd au niveau de tout ça.
Donc là, quand on utilise le mode turbo, on passe par
les serveurs d'Opera.
On passe par les serveurs d'Opera qui compressent les données. Ouais.
Oui, voilà. D'accord. Donc voilà pour Firefox. Deuxième news, mon cher Alain.
On a bien divergé sur Firefox.
On a bien divergé, oui, c'est vrai. Oui, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Moteur de Doom 3 en GPL V3. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Une très bonne nouvelle, oui. Pour tous les gamers sous Linux, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup.
Donc il y a le jeu Rage avec le moteur graphique ID Tech 5 qui est sorti il y a quelques temps. Et donc, du coup, ID Software qui développe ce jeu a décidé de publier les sources de ID Tech 4 qui est donc le moteur graphique
d'avant.
De Doom 3, voilà, qui est le moteur graphique
d'avant.
De la génération précédente sous GPL V3. Donc, c'est John Carmack, le fondateur d'ID Software, pardon, qui est un grand fan de la GPL et qui c'est plus ou moins lui qui a porté ce projet-là de libérer le moteur graphique. Donc tout ça c'est plutôt pas mal puisqu'on va pouvoir avoir des petits jeux.
Et Doom 3 est déjà sur Linux.
Oui, mais on va pouvoir maintenant mettre des jeux gratuits, libres,
et qui vont
Linux.
Pouvoir, parce que justement il y a un nouveau moteur.
En exploitant ce moteur graphique.
Ce moteur graphique, ouais. Donc c'est vrai que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Juste pour info, alors ça m'a fait un peu sourire. Parce qu'il faut savoir qu'ID Software, quand ils ont sorti Rage, quand on regarde en fait le bas de la boîte, on voit ID Software et juste à côté on voit Bethesda Softworks, qui n'est autre que l'éditeur du très célèbre jeu Skyrim, dernier gros blockbuster en termes de jeux vidéo, après les gros blockbusters eux aussi, BF3, je pense que tout le monde aura reconnu, et puis CODMW4, je parle en codé en fait, c'est pour ça, mais qui reconnaîtra tout ça?
Moi qui ne suis pas joueur...
Toi qui Battlefield 3 et Modern Warfare 4, ça te va?
Ça ira comme ça.
Ça ira comme ça, d'accord. Donc je pense que c'est une très très bonne idée. Et c'est sorti, moi je sortais des cours au moment-là, puis je vois sur mon téléphone flash spécial libération du code de Doom 3 et de l'ID Tech 4. Magnifique. Et je fais quoi après? Faut plonger dans le code.
Ah okay. Il faut
ça,
s'y
c'est
mettre.
Notre histoire, oui, voilà. La prochaine news, Cyanogen Mode. Ah, dis donc, si on reparlait encore d'Android.
Pourquoi faire? Très très bien.
Très très bien. On reparle d'Android avec Cyanogen Mode. Alors, tout le monde sait en fait que Google a publié les sources d'Android en version 4.0, la
ICS.
Fameuse Ice Cream Sandwich. Et donc, ce fameux ICS étant avec ses codes publiés, évidemment, on connaît un peu l'écosystème chez Android et chez les constructeurs. On vous donnera la ROM, mais bon, si vous n'avez pas trop un téléphone ancien, malheureusement, même pour moi, par exemple, qui a un Galaxy S, je dois m'en passer de l'ICS.
Sans déconner.
Eh oui. C'est à partir que du 2. Et encore, le 2, ils ont dû gueuler. Ah oui, oui. C'est quand même un truc assez hallucinant. C'est-à-dire que tu restes. J'ai entendu un débat d'ailleurs, l'avant-dernière émission de Chinux, où effectivement, il disait que voilà, qu'un téléphone qui restait en Android 2.2, il le restait toute sa vie. Donc, il ne pouvait pas profiter des améliorations de Gingerbread en 2.3 ou ou, non, il n'y a eu que Gingerbread 2.3. Mais bon, par exemple, un téléphone qui restait en 2.1 éclair, et s'il voulait aller en froyo après, bah, c'était la croix et la bannière, comme on dit. Et donc, justement, on a la chance d'avoir une team qui s'appelle donc Cyanogen et qui porte en fait des téléphones en faisant une ROM basée sur l'AOSP. Alors, l'AOSP, en fait, c'est Android Open Source Project, qui est la base du système Android. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout, pas de surcouche de constructeur à la con, pas de surcouche d'opérateur, rien.
Oh, excuse-moi, je te coupe. En parlant de surcouche constructeur, j'ai vu passer des news récemment. Il y aurait dans les téléphones Android, en tout cas ceux avec surcouche opérateur, pas des petits virus, mais des petits collecteurs de données, et puis qui envoient ça à ton opérateur.
Oui, 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 comme bien chez sûr. Apple, ouais. Ah, ouais. Ça, c'est pas assez. Ouais, on va dire que c'est une.
Bon, une fois que t'es passé sur Cyanogen Mode, t'as plus ce petit code-là.
Voilà.
Et, ou alors, si t'as un Nexus S. Enfin, si t'as un Nexus.
Toujours. Mais toi, sur le Nexus, toi, je confirme que t'as OSP. Hein.
Oui, c'est, bah c'est la base de Google. Voilà, c'est la base, il n'y a pas la surcouche, il n'y a rien, c'est propre.
Tout, ouais. C'est propre, ouais.
Et c'est incroyable, là, comme c'est vachement plus rapide qu'un téléphone avec surcouche.
Oui, tout à fait. Mais moi, je l'ai souvent vu, Cyanogen, sur des gens qui, de toute manière, utilisent Linux, donc savent quoi faire. Effectivement, quand on passe d'une ROM stock, c'est-à-dire une ROM nue, mais avec surcouche constructeur et surcouche graphique, par exemple, chez Samsung, c'est TouchWiz qui est juste horrible. Quand on passe sur une ROM comme Cyanogen Mode avec rien du tout, quoi, vraiment à la base de chez base, bah oui, forcément, il faut faire peut-être des concessions par rapport à des applis mieux faites, mais on arrive toujours à trouver son équivalent sur l'Android Market. Tout ça pour vous dire que Cyanogen est en version 7, qui correspond à la version 2.3.7 de Gingerbread, et donc la version 4 publiée. On aurait la chance d'avoir une Cyanogen Mode, une CM9, qui permettrait d'avoir Android 4 sur la plupart des téléphones qui étaient déjà supportés sur l'Android 2.3, donc CM7. Pardon. Donc, par exemple, mon téléphone qui ne devait pas recevoir de mise à jour en Android 4.0, je vais y avoir le droit. Voilà, c'est le code source étant publié, maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Apparemment, selon les diverses informations qu'on a pu obtenir ça et là, on devrait avoir une version, une alpha, bêta d'ici 2 mois environ. Donc après les fêtes, on devrait normalement avoir l'Android 4 directement sur les téléphones. Le Nexus One, alors ça c'est un gros élément de débat, on va pas s'étendre dessus, mais le Nexus One par exemple n'a pas le droit. Non, n'a pas le droit à Android 4. Pourquoi ? Alors qu'il est peut-être aussi puissant que ton terminal à toi. Je crois que les spécifications sont quasiment les mêmes, parce que Nexus One, ça doit être 800 MHz au niveau de son cœur, une connerie comme ça. Donc pourquoi ? On se demande. Le HTC Desire n'y a pas le droit non plus. On a eu un petit tweet de l'équipe de Cyanogen qui annonce que le travail d'Android 4 sera terminé d'ici 2 mois. Donc bon, voilà, on espère que le projet viendra. Et justement, Samsung a recruté Cyanogen. Et oui, le mec s'appelle Cyanogen. Cyanogen travaille chez Samsung, mais il a toujours dit que le travail qu'il faisait chez Samsung n'était pas le travail qu'il faisait à côté en tant que Cyanogen. Mmh. Voilà. Mmh. On espère pour lui et pour son indépendance, sinon paix à son âme. Mon cher Alain, la news suivante. Tu m'as encore appris ton conducteur, toi. Toutes les semaines, je
le noyau Linux.
Ah oui, ça y est.
Je sais, excuse-moi, c'est juste pour...
C'est juste qu'il est fatigué, le pauvre.
Je suis fatigué, il faut aussi mettre un petit peu de suspense dans l'émission.
Oui, je pense que nos auditeurs ont vachement besoin de suspense. Alors, dépêchez-vous les gars, au lieu de parler dans le vide, là, allez.
Le noyau, une petite news, très rapide, le noyau Linux est passé en RC3 le jour de la Thanksgiving, le 24 novembre. Donc,
il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste le petit commentaire de Linus Torvalds, voilà, qui est peut-être intéressant, mais on ne s'est pas pris la peine de le traduire.
Non.
Si vous voulez retrouver les commentaires de Linus, il faut aller sur
Linus. Il y aura le lien, ouais, aura voilà, le lien sur le site. Hein.
Et puis vous voyez en fait toute l'histoire de la version du noyau qui est décrite en version. Donc voilà, juste à savoir, on est en RC3. Ça sent un peu la news qui a été pondue à la va-vite.
Et la toute dernière news pour toi,
la dernière news, oui, merci beaucoup de me l'avoir attribuée. Wayland, oh là là, Wayland, attention.
Qu'est-ce
là,
que ça peut bien être?
Alors Wayland, c'est ce qui est destiné, on va en parler juste, je vais en parler tout à l'heure justement, c'est ce qui est destiné à remplacer X.org, donc le serveur X, puisque Wayland remplacerait Xorg, il remplacerait Metacity, Queen, enfin en fait il remplacerait tout, il serait un serveur d'affichage, un compositeur de fenêtres, le logiciel, voilà, donc un ensemble. Pour tout ça pour remplacer le très vieillissant X.org, enfin pas si vieillissant que ça en fait, hein. Non, il n'est pas si vieillissant que ça, parce que bon, pour qu'ils supportent certaines de nos configs, tu dis bien quand même qu'ils ont
on reviendra là-dessus plus tard, oui, pendant la dégeek,
ouais,
justement, et on verra pourquoi X.org ne paraît pas si vieillissant que ça.
Ouais.
Alors qu'en fait,
c'est autre chose.
C'est quand même un dinosaure.
Oui. Hein. Ouais. C'est bizarre parce que moi j'ai quand même lu encore des trucs pour préparer l'émission et c'était loin d'être un dinosaure parce que c'est 2004 qu'ils ont libéré, c'est un fork, Xorg, de X-Free 86. Parce qu'ils ont changé
donc
il n'est pas si vieux que ça, hein. C'est que 2004.
Ouais, mais la base, on en parlera tout à l'heure,
d'accord.
On est sur la news.
Oui, d'accord, allez, on est sur la news. Wayland, dès l'année prochaine, en tout cas, de grosses sorties majeures devraient pouvoir intégrer certains supports. Ubuntu 12.04, encore on nous dire qu'on parle de Ubuntu tout le temps, mais bon, malheureusement, c'est un peu ce que Canonical fait en ce moment, c'est-à-dire chasser à grands coups de balai tout ce qui le dérange. Donc, entre ligne de mire, il y avait l'interface GNOME qui sans doute le dérangeait et il a fini par le virer avec Unity. Bah là, les prochaines, le grand chantier, c'est Xorg. Je vois pas trop où est le gros intérêt, parce que l'année prochaine est annoncée comme étant une LTS, donc probablement que ça sera pas en 12.04, mais ça sera en 12.10.
Alors
donc,
il sera
parce que
Wayland sera supporté dans Ubuntu,
ouais, dans Ubuntu 10.04,
mais on tombera quand même toujours sur Xorg.
Oui, sur Xorg, mais en revanche pour la 12.10, qui est le gros changement annoncé l'année prochaine, je pense qu'il y a à mon avis plus à craindre quant à l'abandon de X.org, et KDE 4.8 qui dès l'année prochaine, dès janvier ou février prochain, donc ça c'est une petite news chopée chez Foronix, qui dès l'année prochaine pourrait en fait supporter ce qu'on appelle Wayland, quoi, donc c'est-à-dire compositeur de fenêtres, serveur pour X, bref, tout ce qui est prévu normalement dans Wayland, et devrait être pleinement fonctionnel pour KDE SC 4.9 prévu à l'été 2012. Donc en gros, il n'y aura pas beaucoup de temps entre la 4.8 et la 4.9, hein. La 4.7 elle est sortie cette année, mais il n'y aura pas beaucoup de temps. Voilà, toujours est-il que c'est dans les cartons d'à peu près tout le monde, et donc qu'on devrait avoir ce genre de choses très très rapidement se développer, et je pense qu'une fois qu'une distribution se sera mise à jour avec Wayland, je pense qu'à mon avis, très très vite, d'autres distributions vont vivre très rapidement, donc on vous reparlera de ça, parce que c'est un peu un sujet brûlant quant à ça, parce que bon, bah, certains sont pas forcément... pour avoir un compositeur de fenêtres, un serveur pour X en même temps et d'autres choses, et un gestionnaire d'affichage, ils ne sont pas vraiment pour, parce que moi, vous imaginez bien que s'il y en a un qui plante, bah, c'est toute la chaîne qui plante.
Bon, ouais, tout à fait.
C'est vrai que ça se discute, mais quand on voit certaines fonctions de Xorg, et je pense que ça rebute énormément de gens, par exemple, à venir sur Linux, quand on voit parfois la configuration de Xorg, bien qu'elle est transparente, évidemment, bon, on peut se dire qu'effectivement, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, puisque nous avons... on a mis ça où ? Dans la dégeek. Ouais, moi j'ai pas appris mon conducteur par contre, je m'excuse. C'était tout pour les news, mon cher Alain.
C'est tout pour les news.
C'était pas énorme cette semaine. Hein. PCImpact.com.
On a des petits trucs sympas quand même.
Oui, hein. oui, je pense aussi. PCImpact.com, LinuxFR.org, LWN.net et Foronix.com nous ont aidés dans la réalisation des articles. Enfin, nous ont aidés. Enfin, c'est nous qui avons pris les articles, ça faut pas le dire. Et donc les news sont terminées, maintenant nous allons passer au focus, mon cher Alain.
Tout à fait.
Voilà.
Le focus en flux libre.
Et on revient juste après ce magnifique jingle dans le focus qui est consacré à la licence BSD.
La licence BSD, tout à fait.
Ah, tu me fais encore cette voix de suspense là.
Ah, j'adore, j'adore.
D'ailleurs, la prochaine fois, je le dis comme ça. Alors, il faut signaler un truc, mes chers auditeurs, c'est que mon cher Alain n'est pas capable en fait de mettre son texte sur le Framapad, ce qui fait que moi, je ne sais absolument pas ce qu'il va dire. C'est juste assez hallucinant. Tu devrais quand même le mettre parce que je sais pas qu'est-ce que tu vas dire.
Ben j'improvise.
C'est très bien de dire ça. Non mais tu sais pas, moi tu pourrais dire j'ai vu Nana à poil hier et machin. Non mais tu vois, je suis même pas à contrôler, tu vois.
On n'est pas en direct.
Oui, on n'est pas en direct, c'est vrai. Oui. Mais fais gaffe parce que ça sera pas au montage, ça sera pas coupé.
Je sais.
Ah bon. La licence BSD, mon cher Alain.
La licence BSD, qu'est-ce que c'est que la licence BSD ? C'est pas tout à fait comme la licence GPL. La licence GPL, elle, on vous en a déjà parlé, elle permet de récupérer le code, modifier le code, redistribuer le logiciel. Et puis, avec la
licence...
Selon
les 4 lois du logiciel libre.
Tout à fait, que tu as appris récemment d'ailleurs.
oui, d'ailleurs on a un petit truc à vous dire.
Le truc avec la licence GPL, c'est que quand on modifie le code d'un logiciel en GPL, on est obligé de redistribuer le code résultant.
C'est ce qu'on vous avait parlé dans la première émission de viralité du code.
La viralité du code, exactement. Donc un code qui est en GPL, qui est modifié, il reste en GPL.
Et non. En fait, on ne doit pas dire viralité. Parce que j'ai enfin lu le bouquin de Richard Stallman.
Ouais, tu as lu le bouquin de
La révolution du logiciel libre. Je suis en train de le lire en ce moment. Et alors ? Il ne veut pas qu'on prononce le mot de viralité.
Bah non.
Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'on utilise le mot Linux, il faut accoler GNU Linux. Oui, parce que ça va pas lui plaire. Le jour qu'on va le recevoir, ça va pas lui plaire au monsieur.
Quand on va le recevoir.
C'est vrai que dans ma chambre, on va vachement le recevoir. Je t'en prie, mon cher Alain.
J'espère qu'il aime les chats. Alors. la licence BSD, elle, alors c'est très c'est une très vieille licence qui
date
a été
des années 80. Hein.
J'ai pas la date exacte, tiens, c'est une très bonne question, mais qui a été créée à l'université de Californie, de l'université de Berkeley, donc. Puisque BSD, ça veut dire Berkeley Software Distribution. Donc cette licence, c'est considéré comme une licence libre et elle permet donc un logiciel qui est sous BSD. Donc c'est pareil, on a accès au code, on peut modifier le code. Par contre, derrière, avec le code modifié, on peut faire ce qu'on veut. Et donc ça, c'est très pratique pour ceux qui veulent faire du propriétaire, notamment. Je pense par exemple à Apple. C'est la première entreprise à laquelle je pense, puisque donc macOS est basé sur un noyau Mac sous licence BSD et utilise également des utilitaires qui viennent de FreeBSD. Donc voilà la...
Ah ouais.
Oui, tout à fait, ouais. Ah ouais.
Qui l'eût cru.
Et donc voilà pour cette licence qui permet qui n'a pas comment on dit de c'est une licence libre mais sans copyleft. Voilà, je cherchais le mot. Donc le copyleft, le code est libre et le restera malgré toutes ces modifications. Donc sur la BSD, on n'a pas de copyleft. Voilà, donc comme ça les gens font ce qu'ils veulent avec cette licence là. C'est considérée par certains comme la licence la plus permissive, en fait, la plus libre qui soit.
Oui, voilà. Oui, parce que tu me dis que Mac étant une partie du code étant licence BSD, oui, c'est sûr.
Ah non. J'ai pas dit que le code que le code des Mac était sous licence BSD. Et quand je disais noyau Mac, Mac M-A-C-H, qui est donc c'est
ah oui d'accord je sais voilà. Oui je vois qu'est-ce que tu veux dire oui d'accord voilà. Ok j'ai fait une petite
non oui j'ai pas précisé autant pour moi d'accord autant pour moi donc Mac OS X poupoum tiens je l'ai ici d'ailleurs. Par exemple, Sun utilise du code réseau sous licence BSD. Oui. Et puis, donc, Apple utilise des composants en provenance de FreeBSD. Voilà, dans les macOS X.
Tout à fait.
Voilà pour le focus sur la licence BSD.
Tu nous as fait un petit focus, toi.
C'est un petit focus, mais bon, il n'y a pas non plus besoin de tergiverser là-dessus.
Non, je pense. Je pense qu'on fera global sur les licences où on citera quand même un peu toutes les licences.
Et puis, moi, j'ai envie d'attaquer assez vite la couche graphique,
La
dégeek, parce que ça m'intéresse au plus haut point.
Je vais m'y coller, mais attends, mon petit Alain, avant de te réjouir, il y a la petite musique qui arrive.
La
nouveauté, on vous l'a annoncé dès le début de l'émission, une petite musique va faire son apparition. Ça va pas être une petite musique bim bim bim, ça va être une grande musique.
Est-ce que je peux t'inviter à danser, Gisela?
Sans façon, moi j'allais fumer une clope avant. La petite musique, c'est... Alors, faut que j'explique un peu. Le monsieur s'appelle JLT. Il a 19 ans et il paraît qu'il est passionné par les musiques électroniques. Hein, Dixit, son blog qui est sur Internet. Et effectivement, il nous a concocté un petit morceau absolument sublime qu'on va vous laisser découvrir.
J'aime beaucoup aussi.
Ça s'appelle Level 1. Ça rappelle vraiment 2-3 petites choses. Et ils étaient déjà passés. Enfin, en tout cas, le son était déjà passé dans l'écho des Gnous, donc chez nos amis de Chtinux. Mais voilà, moi je voulais vraiment le reprendre parce qu'en tout cas, il a un grand grand talent. Donc mon cher Julien, si jamais tu nous écoutes, t'as un grand talent et puis tu passes sur une radio sur une émission. C'est déjà pas mal, mais national forcément. Donc mon petit Julien, c'est à toi. JLT Level 1 dans Enflux Libre épisode 4. C'est parti. Enflux Libre. De la musique pour adoucir les mœurs. Oui, bah c'est bon maintenant, on a compris. Thank you.
petit moment de calme et de douceur. Dans ce monde de brut, nous allons reprendre le fil de notre émission. C'était JLT Level 1 sur... Non, je peux pas dire Radio Campus, c'est l'habitude. Dans Enflux Libre, dans l'émission Enflux Libre, quatrième épisode. Et nous reprenons le cours de nos équilibrations. Je sais pas si ça se dit comme ça, de nos équilibres.
Équilibrations.
De notions, en tout cas. Et le petit générique. Pour vous signaler que nous allons passer à la dégeek, c'est la dégeekalisation. La dégeekalisation en flux libre. La dégeek cette semaine, c'est un aspect graphique sous GNU Linux X.org. Oui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Eh bien, on va pouvoir en reparler un peu plus longuement maintenant. Alors, X.org, je pense que les gens qui nous écoutent savent tous plus ou moins ce que c'est. Bon, on va faire un petit rappel quand même. Donc, X.org est un logiciel libre, je crois même sous licence GPL de mémoire.
Oui, sans doute.
Hein. Oui, je pense, ça doit être sous licence sans GPL. Doute, hein. Un serveur X, pour être plus précis, que de nombreux Linuxiens et libristes utilisent, et même pour certains sans même le savoir, puisqu'il s'agit du système de fenêtre le plus utilisé dans le monde de Linux. Je reviendrai sur ce qu'est un serveur X, un peu, et plus précisément X11, dans une prochaine des geeks. Tout ce que vous devez savoir, c'est que X.org, pour les gens qui utilisent par exemple des distributions grand public style Ubuntu ou ce genre de choses-là, ça se fait de manière transparente, mais on peut le configurer. En gros, X.org, pour simplifier, c'est ce qui va vous permettre de savoir quelle est la résolution de votre écran, par exemple. C'est ce qui va permettre de savoir la profondeur des couleurs, 24 bits, 32 bits. C'est ce qui va permettre également de savoir quel pilote vous utilisez, si c'est un pilote de logiciel libre aussi, libre. Du mal. Ou un pilote propriétaire d'NVIDIA ou de ATI pour ne pas les citer.
Gestion de la souris aussi,
oui,
et du clavier.
Oui, gestion de la souris, du clavier, hein, le touchpad pour les laptops. Bref, c'est vraiment le logiciel qui est utilisé en fait, on va dire, peut-être une des grosses briques du système avant d'arriver après au gestionnaire de fenêtres, au desktop environment, style KDE, GNOME, tout ça. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, la base de l'affichage sous Linux. Peut-être aussi ce qui pose aussi le plus de problèmes en termes de configuration, parce que pour des gens qui veulent construire leur système pas à pas, comme par exemple Arch Linux, c'est un truc qu'on doit installer à la mano. Donc c'est un peu compliqué au départ. Ça fait des fenêtres un peu criardes, notamment quand il faut faire des phases de test. Mais en règle générale, on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir. C'est un projet qui est mené par la fondation X.org, donc du même nom, et il fonctionne sous tous les dérivés d'Unix. Donc dérivés Unix, c'est Linux, BSD, Solaris également, enfin tout ce qui dépend en fait d'Unix. Je crois même Mac OS X et même Windows, hein, selon certains trucs, même sous Windows on peut le faire. Faire fonctionner. Oui. Il est libre en fait parce qu'il fait suite à un fork de ce qui est survenu en 2004 du logiciel X-Free 86. Je crois que c'était un problème de licence entre l'original.
Oui.
C'était entre, je crois qu'il y en avait un qui était sous licence BSD ou MIT.
MIT, en fait, voilà. D'abord, il était X-Free 86, c'était d'abord sur une licence MIT, et ensuite, en janvier 2004, a changé de licence pour passer sur une licence proche des licences BSD.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'était les toutes premières licences BSD même, de mémoire. Voilà, X.org. Donc il se fait de manière transparente, mais tout le monde, enfin en tout cas les gens les plus avancés pour les systèmes Linux connaissent le fameux xorg.conf, qui est le fichier de centralisation de tous les paramètres de Xorg, donc qui est à l'intérieur des fichiers X11, puisque c'est un serveur X, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a plusieurs manières en fait de détecter votre configuration. Il y a la configuration automatique, mais qui parfois peut en fait ne pas marcher. Et il y a également la configuration manuelle, ce qui a pour des avantages en fait de pouvoir connaître parfaitement sa machine pour mettre ses paramètres bien comme il faut. C'est souvent le cas en fait sur Arch Linux.
Évident, voilà, c'est remplir pas à la main le taux de rafraîchissement de l'écran, 60 Hz ou 70 Hz.
Voilà, ça dépend de l'écran qu'on utilise, si on a un laptop. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile à savoir. Donc c'est vrai que bon, quand vous installez un système comme un OS, comme un GNU Linux, comme Ubuntu ou Fedora, ça se fait de manière transparente, ça se fait derrière le processus d'installation. Donc bon, c'est un truc qui se configure pas trop. Néanmoins, par exemple, pour avoir par exemple testé Mageia par exemple, qui est donc un fork de Mandriva, je le rappelle, on voit pas à pas les étapes donc pour configurer votre taille d'écran, si vous voulez utiliser un pilote libre ou pas libre, enfin voilà, vous avez quand même, ça dépend en fait des distributions et de leur philosophie. Et donc x.org, c'est juste en fait, le problème c'est qu'il est puissant, mais bon, il n'est pas très précis, donc il va un peu là où ça l'arrange, et c'est justement là qu'intervient le fameux projet Wayland, parce que lui permettra en fait d'outrepasser tout ça, c'est-à-dire de devenir un serveur X.
Parce que c'est-à-dire, donc pour revenir sur Xorg, donc Xorg est basé sur Xfree86, voilà. Xfree86... et Xorg ont, enfin le noyau en fait de ces logiciels-là ont quelque chose comme une petite trentaine d'années, on va dire.
Donc c'est ça que tu me disais, qu'il y avait trentaine d'années.
Voilà.
C'est bizarre ça, parce que j'en ai pas retrouvé la trace en fait. J'ai peut-être pas été chercher
trop
loin.
Je sais plus où j'ai lu ça, mais.
J'espère que tu dis pas des conneries pour nos auditeurs.
Et j'espère. mais en tout cas, c'est vrai que à partir de là, ça devient vraiment. C'est-à-dire que dès qu'on veut procéder à des modifications en profondeur, ça devient extrêmement compliqué. Oui. Donc,
quoique qui dit fork d'un projet dit forcément que certaines choses ont été modifiées, donc on peut dire que Xorg n'est pas si ancien que ça finalement. Il date de 2004.
Non, mais pour tout, et pour tout. Tout le code. En
oui,
fait,
tout le code, oui.
C'est-à-dire que on est reparti en fait le fork est reparti de Xfree86 qui devait dater de janvier 2004. Et une fois que Xfree86 a changé de licence, donc c'est là que Xorg est né, et ils ont repris le code d'Xfree86 juste avant le changement de licence. Donc voilà. Donc du coup, vu l'âge avancé, même si ça a que, disons, 15 ans,
bah,
20 ans.
Moi, je lis en face dans mon écran que c'est de 91.
Donc, 91,
ça a
20
ans. Ça a 20 ans. Donc, 20 parce que c'est pas possible que ça ait 30 ans. Ça veut dire que sur des anciens systèmes, il y avait déjà Xfree86. Ça m'étonnerait. Non, le projet a 20 ans. Le projet a 20 ans.
Donc 20 ans, donc, voilà. Déjà, quand on voit les performances graphiques qu'on a besoin actuellement.
Actuellement, oui. Et puis même tout ce qui est avancé comme la transparence.
Exactement, tout à fait.
Ce genre de choses-là, même sans aller plus loin, la transparence.
Fait,
même
là, on a besoin du coup d'ajouter une nouvelle surcouche avec des logiciels de
composition. X-Render ou je ne sais plus quoi pour Xorg aujourd'hui.
Voilà,
pour,
par exemple,
Donc voilà, et Wayland, son rôle futur, ça sera en fait de remplacer tous ces petits composants qu'on réajoute à Xorg pour qu'ils puissent fonctionner pour qu'ils puissent donner en fait, on va dire, un bureau plus moderne, un aspect
tout
plus moderne à ce qu'on attend entre guillemets aujourd'hui, selon la mode d'aujourd'hui. Vous savez bien qu'on aime bien avoir de la transparence un peu partout. Donc, par exemple, ce projet permettra de faire en même temps le serveur pour X11, en même temps un compositeur.
Et tout ça sera directement intégré dans le gestionnaire de fenêtres. En
fait. Voilà. Donc, si jamais il y en a un qui plante, voilà.
Ce qui on va gagner une couche en fait. C'est-à-dire qu'avant on avait le kernel.
Deux, trois couches même.
Ouais, on avait le kernel.
Ouais.
Ensuite par-dessus on avait une couche Xorg. Et encore par-dessus on avait le gestionnaire de fenêtres.
Entre le kernel et le Xorg, il y avait quand même les couches d'abstraction matérielle et tout.
Oui,
tout
bien sûr. Oui,
le HAL qui a été abandonné.
Oui, par exemple. Ouais.
Voilà. Et d'ailleurs, Xorg ne dépend plus d'HAL. Je crois qu'il est parce que HAL a été un peu abandonné et mis sur le carreau il y a quelques temps de ça, si ce n'est je sais plus quand. Voilà ce que on pouvait dire sur.
Et en fait maintenant, Donc Xorg avant faisait vraiment plein de choses. C'est lui qui gérait beaucoup de choses, notamment au niveau de l'affichage des fenêtres et tout ça. Maintenant, avec les beaux affichages graphiques qu'on a besoin, etc., etc., c'est le gestionnaire de fenêtres qui s'occupe d'une grosse partie de tout ce travail.
Voilà, on l'a déchargé en fait.
Xorg est déchargé de tout ça, voilà, et ne sert plus que de proxy entre le gestionnaire de fenêtres et le noyau.
D'accord, comme donc, un proxy internet finalement.
Voilà,
d'accord.
Voilà, comme un proxy internet, c'est-à-dire qu'il fait juste le lien entre les deux. Donc on va supprimer cette couche-là, on va avoir Wayland qui va intégrer directement, ou qui va s'intégrer plutôt dans le gestionnaire de fenêtres et dans le Composition Manager, et on va forcément gagner en performance. Wayland, je suppose, donc sera beaucoup plus étudié pour des systèmes modernes. Oui. Donc, au niveau des performances, on va, je pense, pas mal gagner, et pas que au niveau des performances, je pense, au niveau de la facilité d'utilisation et de configuration aussi.
Donc voilà, à peu près, donc on va dire que Xorg va mourir à petit feu, comme lui-même a tué XFree 86 lorsqu'ils sont passés sur une autre licence et quand ils ont forqué par rapport à XFree 86. Donc je pense Xorg va être tué plus ou moins. Par contre, Wayland, c'est qui gère ce truc-là?
J'en ai aucune
idée. C'est une fondation ou... Parce que je sais qu'ils font partie de la freedesktop.org, qui est en gros, le pour simplifier un peu la vue.
Oui, c'est freedesktop, ouais.
Voilà,
ouais.
Pour simplifier la vue, c'est un peu lui qui harmonise en fait toutes les bibliothèques d'affichage pour par exemple GNOME, KDE. Effectivement, qu'on passe d'un GNOME ou d'un KDE, on n'est pas des erreurs partout parce que par exemple Xorg ne sait pas gérer telle dépendance de GNOME ou telle dépendance de KDE. C'est un peu eux qui font un peu la centralisation de tout, et je sais que d'avoir lu de mémoire qu'il faisait partie de Free Desktop.
Oui.
.org. On vous mettra le lien sur le site si ça vous intéresse. Donc, dans Free Desktop, hein, il y a GNOME, il y a KDE, il y a quoi d'autre? Enfin, c'est les plus connus, ceci dit. Hein, allez sur le site, de toute manière, hein, c'est bien expliqué. On l'a devant nous, par exemple. Hein, c'est très bien expliqué. C'est dit que freedesktop.org est un is open source and open discussion software project working on interoperability and shared technology for X Windows System Desktops. Donc voilà, c'est eux qui centralisent un peu tous les bibliothèques, enfin pas les bibliothèques, mais qui centralisent un peu tous les projets de bureaux sous Linux, et qui respectent en plus la Linux standard base.
Tout à fait.
Par exemple,
le projet a été initié en 2008.
Oui, d'accord. Okay. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur X.org. Donc à suivre, hein, on vous en dira certainement des nouvelles d'ici un peu plus tard dans la saison, hein, sur ce que ça devient, oui. Notamment pour Ubuntu 12.04, qui est assez attendu puisque ça sera une LTS. Donc je pense qu'il y aura matière à dire beaucoup de choses, et notamment sur ce changement de gestionnaire de fenêtre, puisque Xorg était un peu devenu notre ami finalement.
Bah oui.
Oui, finalement, on s'était habitué.
Mais bon, il va mourir de sa belle mort.
Voilà, il va mourir de sa belle mort.
Il a fait son travail.
Il a fait son travail, donc voilà, je pense que maintenant, il est temps pour lui de se renouveler et de laisser la place. Mais Wayland a été un sujet quand même brûlot pendant un certain moment, parce que je crois qu'on a commencé à en parler il y a plus de deux ans, voire même un peu plus longtemps que cela.
Comme ça a été initié en 2008.
C'était un brûlot parce que. Remplacera pas, c'était un peu le problème, donc apparemment, d'après ce qu'on vous a dit d'ailleurs tout à l'heure dans les news, ça serait bien avancé du côté de chez KDE Foundation et du côté de chez Canonical, éditeur de Ubuntu.
Voilà. Et donc le but de Wayland, c'est d'être un serveur d'affichage, un serveur X, donc minimal, léger et performant.
Aussi. N'oublie pas le performant. Donc voilà pour la dégeek aujourd'hui. C'est parti pour le site du jour.
Le site du jour.
Ah, t'es pas obligé de refaire le jingle à la fin. T'es... Le site du jour.
Le site du jour.
Le site du jour. La sélection en flux libre.
Le site du jour, mon cher Alain.
Léa Linux.
C'est ta copine?
Non.
Je voulais la faire. Je voulais la faire. C'est ta copine, non? T'es sûr?
Non, c'est pas ma petite copine.
Tu aimerais bien quand même avoir. Tu vois, on voit sur l'entête de la page un petit pingouin avec un nœud rose. Ça te
c'est,
plairait,
la, c'est la copine de Tux.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tiens, on va parler un jour des mascottes.
Ouais,
c'est alors, on l'a pas encore pas, fait. Ouais. Ouais, ouais. On va parler un jour des mascottes.
Carrément.
Hein. Entre le démon de chez BSD et le pingouin. Le manchot de chez Linux. Faudrait qu'on parle de ça un jour. Et non, on a oublié la tête de Gnou. C'est le Gnou qui fume à moitié, qui fume des bédos.
Gnou.
Léa Linux, mon cher Alain.
Léa Linux, un petit site, un gros site, pardon, collaboratif, oui. Moi qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, puisqu'il y avait, il y a toujours plein de tutoriels. Je pense que c'est un petit peu moins fréquenté maintenant.
Il y a des news, hein.
Il y a des news.
Voilà,
Donc sur Léa Linux, donc il publie quelques nouvelles et puis aussi et surtout de la documentation sur plein de choses très intéressantes.
Le site est très bien fait, hein. Il est très graphique,
très joli,
hein. Il est très joli.
Très joli. Ouais. Ils ont tout refait, ça faisait un petit moment que j'étais pas allé dessus.
Ils font pas mal d'agenda du libre, hein, parce que quand on tombe sur la page, d'ailleurs il y a un truc qui me fait un peu rire, parce qu'il y a deux semaines de ça, nos amis de GGTinux avaient dit qu'il y aurait une table ronde sur un sujet qu'ils n'avaient pas encore défini. Et là, un membre de l'équipe, je sais plus si c'était Tim ou je sais plus qui, non, je crois que c'était pas Tim ou c'est Alexandre ou Pierre, je crois que c'était Pierre. Bref, l'un de tous ces petits gens-là, on dit comme ça que on se remet à faire des conférences. Donc bon, apparemment ils n'étaient pas tous au courant qu'ils allaient faire des conférences. Donc on peut l'annoncer. Il y a eu une conférence lundi dernier parce que c'était le 21 novembre dernier. Hein, c'est pas forcément mis à jour non plus tout le temps. C'était le 21 novembre dernier, donc c'était une soirée au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Amishti. Et donc Léa Linux, revenons à nos moutons.
Donc Léa Linux, on a de la documentation sur installer Ubuntu 11.10, installer MacGyver 1 par exemple.
Oui.
Des choses un petit peu plus poussées comme des options subtiles pour Yum.
Explique ce que c'est Yum quand même, mon cher ami.
Le gestionnaire de fenêtres.
Autant
pour moi.
On n'est plus en Voxorg.
Le gestionnaire de paquets de Red Hat, CentOS notamment et Fedora.
Voilà. Tout à fait.
Donc, comment préparer son installation de GNU Linux? Comment faire son partitionnement?
GNU Linux?
Ah, moi je dis GNU.
Tu dis GNU?
Ouais.
Toi, tu dis vraiment ce que Richard Stallman a dit. Parce qu'effectivement, Stallman a dit.
Je suis dans un intégriste.
Voilà,
monsieur.
Dans le fameux livre que je rappelle le nom, Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, disponible chez nos amis de Framabook, il a dit effectivement qu'on ne devait pas forcément prononcer GNU. Eh ben moi je m'en fous, je suis contre lui, je dis haut et fort. J'ai dit GNU.
Et puis là où on inverse, c'est que toi tu dis H-A-L pour...
toi tu dis HAL.
Je dis HAL.
HAL.
Voilà.
Avec le HAL.
HAL, c'est le même nom que le robot l'ordinateur plutôt dans 2001 l'Odyssée
oui,
d'espace.
Oui, exact, de Stanley Kubrick. Exact. Et qui était un livre de Arthur...
Dis-nous tout.
Arthur, je sais plus comment... j'ai plus mes classiques en tête. C'est Clark, Arthur, c'est Clark.
D'accord.
2001, l'Odyssée de l'espace.
D'accord.
D'ailleurs, je signale à tous
les... Est-ce que tu sais pourquoi... Excuse-moi, je te
coupe.
Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle H-A-L?
Non, mais je pense que ça n'a rien à voir avec HAL. Je pense que ça...
Alors, donc, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il s'appelle H-A-L parce que pour chaque lettre donc, du nom, H-A-L, si tu prends la lettre suivante dans l'alphabet, ça fait I-B-M.
Waouh! Celle-là, fallait la chercher, celle-là.
Elle est pas belle, l'histoire?
Oh là 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 là. Trop de culture tue la culture, je l'ai toujours dit. Bah, toujours est-il que nos chers amis, nous allons faire une émission de science-fiction si ça continue.
Oui!
Ça sera super cool.
On invitera Asimov.
Oui. par contre, tu t'occupes de déterrer du tombeau. Hein, je te préviens.
Tu
iras le chercher. Mais il est mort. Hein.
Je sais pas, je crois pas. Si?
Il est mort. Oui, je crois qu'il est mort il y a quelques années de ça, en 2004 ou un truc comme ça.
C'est vrai?
Oui? Sinon, j'irai chercher
Steve. Il est mort.
Non, mais sinon, j'irai chercher Steve Jobs.
Il est même mort en 92. Hein.
Oui, bah, ça fait longtemps. Voilà. Je pense qu'il a eu le temps de, il a eu le temps de réfléchir dans sa tombe.
Je trouve qu'on digresse beaucoup dans cette
émission. Oui, je trouve aussi. Est-ce que c'est l'heure à laquelle on digresse? Tu vois, moi, je suis même en train de lancer le téléchargement de ma GIA 2 pendant qu'on parle. Bah, bravo. Bah, mon cher ami.
Je reviens sur les Linux, si tu permets. Donc, c'est également un site, malgré toute la documentation qu'on peut trouver, les news. Il y a aussi un forum, si on a besoin d'aide, par exemple.
Ouais.
Et c'est un site collaboratif auquel n'importe qui peut participer, donc rédiger des petits tutoriaux et puis les soumettre aux modérateurs de Léa Linux qui vont pouvoir les intégrer sur le site. Donc le site est très joli, c'est très bien fait.
Ouais,
j'ai l'impression que c'est un wiki, c'est fait par un wiki en tout cas, le moteur du site. C'est pas marqué, ok.
C'est pas grave.
Mais ça a l'air d'être un wiki. En tout cas, le site est très joli et
C'est MediaWiki.
MediaWiki, d'accord. Il y a également une mailing list pour pouvoir poser ses questions aussi, si on a des petits soucis. Voilà, moi c'est vraiment un site que je vous conseille pour aller faire un tour, même pour ceux qui connaissent déjà bien Linux, pouvoir reprendre des bases, depuis le début.
Ouais,
des fois, c'est pas plus mal.
C'est
et
pas
ça
plus mal de se faire rafraîchir la mémoire.
Tout
c'est
à fait.
Vrai.
Ouais.
Donc voilà pour le site du jour, Léa Linux. C'est léa-linux.org et vous retrouverez évidemment le lien sur le site de l'émission, sur la page du podcast que mon cher Alain vous concocte toutes les semaines pour que ça soit jour.
Toutes les deux semaines.
Toutes les deux semaines, oui. Et puis d'ailleurs, il va falloir vraiment qu'on s'occupe du site. Hein.
Oui.
Parce qu'on l'avait dit déjà la semaine dernière.
Oui, c'est vrai.
Enfin, il y a deux semaines de ça. Donc, il va falloir quand même qu'on s'en occupe.
Je devrais avoir plus de temps dans les deux semaines qui viennent. On aura avancé.
J'espère, oui.
C'est promis, public, c'est promis.
Et là, normalement, je devrais inclure des... tu sais, comme dans les grandes radios nationales, des petits « Ouais !»
Ouais,
des applaudissements.
Il nous faudrait ça, ouais.
Ouais, non, mais je vais te trouver ça, tu vois.
Faudrait qu'on enregistre en public.
Oui, en public, ouais. Mais oui, voilà. Ouais. Mais tu sais que normalement, j'ai dit comme
dans
ça...
Dans une salle Omnisport.
Mais oui, tout à fait. J'ai dit, quand j'ai eu Thomas, donc Thomas qui est le secrétaire de l'association Ch'tinux et donc qui est aussi animateur dans l'émission Les Codes Gnous, je lui ai dit comme ça, mais ça serait une bonne idée qu'on aille tous les deux, Alain, donc toi et moi, à Lille, et donc faire une grande émission en public avec un grand public et là qu'on se fasse que les femmes se jettent... Ouais, d'accord. Bon. Le point distrowatch.com, c'est parti.
Le point distrowatch.
Le point distrowatch.com avec bon, pas grand chose. Hein. Cette semaine c'était un peu plat. Ah si, on a eu hier, même avant-hier, Linux Mint 12. Alléluia. Ça c'était le gros truc que tout le monde attendait. J'ai vu des posts fleurir partout sur le web. Partout. Il y en a un qui l'a cassé, mais alors monumental. J'ai lu un blog, un billet, mais il y a quelqu'un qui l'a cassé. Je sais plus, je me rappelle plus de qui c'est, mais qui a cassé, mais alors dans l'œuf le truc. Moi, c'est clair et net que... Enfin, toujours est-il que Linux Mint 12, nom de code Lisa, a été... et donc est sorti avant-hier ou hier, je sais plus. Donc
le 26, hier.
Voilà, avec... on vous reparle pas de ce qu'il y a dedans parce qu'on vous en avait déjà parlé. GNOME 3 avec surcouche,
ouais.
MJSE. Ça reste à la base une Ubuntu 11.10. Donc voilà, Linux Mint 12 qui devrait tout faire exploser. Alors, ce qui m'a fait marrer d'ailleurs, parce que c'est la semaine dernière... Voilà pourquoi je disais que pas mal de blogs en ont repris, mais aussi les sites grand public.
Oui.
C'est-à-dire Numérama, PC Impact, OneNet, enfin 01Net, et tous ces sites dits grand public et qui en général font un peu du buzz plus sur Windows et sur Mac OS X que sur notre monde à nous, le monde des GNU Linux par exemple. Alors, on a eu la surprise de voir des papiers qui fleurissaient, magnifique, Linux Mint est en train d'abrutir Ubuntu et est en train de le défoncer au passage. Alors, c'est bien gentil les petits gars, sauf que vous n'avez pas la réalité du terrain pour en parler, hein. Vous n'avez certainement pas la même légitimité que
et
nous.
Et puis tout le monde se base sur les statistiques DistroWatch.
Mais oui, voilà, et nous on l'a très bien expliqué depuis qu'on fait ce point distrowatch.com. Surtout, ne le prenez pas comme un utilitaire pour dire qu'effectivement 2500 personnes utilisent Ubuntu et 2600 utilisent Mint. C'est vraiment au nombre de clics. Par exemple, moi je vais cliquer, ça va partir dans les statistiques du site et on va voir une personne supplémentaire. C'est tout. Donc, il faut bien qu'ils comprennent ça. Alors, évidemment, je sais bien que chez PC Impact ou chez OneNet, ils ne vont pas nous écouter. Mais toujours est-il que le buzz pour faire du buzz, ça ne sert à rien. C'est tout. Moi, je suis désolé. Ils n'ont certainement pas la même réalité de terrain que nous, ce qu'on a, et notre légitimité à nous par rapport au logiciel libre et au GNU Linux. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à faire. Ubuntu a fait ses choix par rapport à Canonical. Ubuntu, ça reste Ubuntu. Mint, ça reste Mint. Nous, dans notre communauté, c'est clair que ça, parfois ça s'entre-déchire, mais chacun y retrouve son compte de toute manière. Donc Mint fait son petit bonhomme de chemin. On est très content de ce succès puisque c'est un Français qui est mainteneur et développeur de la distribution. Mais toujours est-il que voilà, si on n'avait pas Ubuntu, on serait toujours à 0,05% de part de marché
tout
dans le
fait.
Monde
de
Linux.
Et puis,
c'est
de toute façon,
un fer de lance.
Ça sert à rien de dire que Mint va exploser Ubuntu ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon. Mint est basé sur Ubuntu,
mais oui,
donc
voilà.
C'est un petit peu le serpent qui se
mord
la queue.
Qui se mord la queue, oui. Histoire. Ou le chat. C'est à ton... C'est... Bon, ok, d'accord. Ou le chat. Bon, tout... voilà, c'était un peu le coup de gueule de la semaine. On devrait faire un petit sujet coup de gueule à chaque semaine, ça nous motiverait. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est tout simplement... C'est très chiant de faire entendre ce genre de truc sur des sites généralistes, alors que, bah... Pff, est-ce qu'ils y connaissent ? Je comprends à la rigueur PC Impact. Mais quand c'est Numérama qui reprend le truc, quand c'est OneNet, encore plus OneNet finalement que Numérama ou PC Impact, parce que ces deux-là font en général 2-3 trucs, quand c'est OneNet qui fait 2-3 news sur Linux par an en disant qu'Ubuntu et une nouvelle Ubuntu est sortie, je suis désolé. Mais là, je pense qu'il y a matière à gueuler. Je pense que voilà, c'est pas leur légitimité à eux. Restez sous Windows, vous êtes bien mieux. Voilà, le message est passé. Donc j'espère. Mais ça m'empêche pas de les lire pour autant, parce qu'on y a toujours deux, trois petites news quand même à chercher. Pas de OneNet. OneNet, voilà. Bref. Petite parenthèse fermée. Donc Linux Mint 12 est sorti. Donc vous pouvez le télécharger. Également Mageia en version 2, et oui, Mageia, qui continue son petit bonhomme de chemin en version 2, Alpha 1. Ça avance, avec disponibilité pour les bureaux KDE 4.7.3, GNOME 3.3.2 et LXDE. Donc comme je viens de vous le dire, je viens juste de mettre en téléchargement. Et puis bah, sinon, c'est vraiment des toutes petites distributions. Hein. Zeven OS, qui est un BOS-like. C'est Ubuntu, pardon. Ubuntu avec un bureau XFCE. On a Porteus 1.RC2 qui est une Slackware, un live CD basé sur Slackware avec Trinity, le fork de KDE3. D'ailleurs, on en parlera dans les prochaines semaines. Hein, ces forks de bureaux qui fleurissent les après les autres. Hein. Mate pour GNOME 2.32
et
Trinity pour KDE3. Et donc voilà.
Je voulais mentionner aussi IPCOP 2.02 qui est sorti. IPCOP, c'est une solution de firewall pour la maison.
D'accord.
Donc c'est une distribution qui fait firewall. Voilà.
D'accord.
Ça peut être utile.
Effectivement.
Quand tu as un petit réseau à la maison.
Un petit réseau à la maison, se protéger derrière quelque chose. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est toujours utile. Donc voilà, et puis on a oublié de mentionner, puisque depuis notre dernière émission, il y a eu OpenSUSE 12.1 également.
Oui.
Et oui, il y a eu en version 4.
Je voulais la tester, j'ai pas eu le temps.
Bah, je l'ai testé, je l'ai pas testé très longtemps, je le reconnais, j'ai testé juste une soirée. Ça marche mieux que les autres versions précédentes, parce qu'il a réussi à reconnaître un peu partout.
Hein. De ce que j'ai lu,
ceux qui étaient auparavant déçus d'OpenSUSE, qui
l'ont testé ont trouvé ça plutôt pratique, hein, plutôt pas mal.
Oui, voilà, ouais. Donc, non, je viens juste de perdre ma connexion à Framapad.
Cool.
Donc, voilà, c'est un peu, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais voilà, OpenSUSE, une jolie petite distribution à tester, donc pourquoi pas. Et enfin, notre top 15 chez distrowatch.com. Au nombre d'intérêts, je signale bien, pas au nombre d'utilisateurs, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas 558 utilisateurs de ces.
Et au nombre d'intérêts sur le site.
Sur le site, oui, sur le site, pardon, j'ai parlé trop près du micro, ça siffle dans les oreilles. En 15e position, dis donc qu'on a Zorin en 15e position. Alors là, c'est une surprise parce qu'il a carrément botté les fesses à Scientific Linux. Donc on a Zorin qui est venu.
Scientific Linux,
dis donc qu'on en a parlé la semaine dernière, j'aurais fait une mauvaise pub, les pauvres. Exact. Chakra en 14e position, Sabayon en 13e, Lubuntu 12e, Mageia qui suit de près Mandriva comme à leur habitude 10e et 11e, Puppy Linux en 9e position, CentOS en 8e, PC Linux OS qui ne bouge pas et qui reste à la 7e position, Arch est toujours derrière Debian à la 5e, à la 6e et donc Debian est à la 5e place, OpenSUSE est à la 4e, Fedora 3e, Ubuntu 2e et Linux Mint forcément à la 1ère position vu le l'intérêt qu'il grandit et qu'il prend au fur et à mesure.
L'intérêt qui grandit, et puis évidemment, quand une distribution sort, quand une nouvelle version majeure d'une distribution sort, forcément, il y a plus d'intérêt.
Voilà, pour cette distribution forcément. Donc, on serait pas étonné que dans 2-3 mois, Ubuntu revienne à la charge, par exemple. Hein, oui. Donc voilà, on le dit toujours, notre point DistroWatch est quelque chose d'assez subjectif. Donc en rien, il ne reflète la véritable utilisation des distributions GNU Linux un peu partout dans le monde. Et donc je reviens juste sur Zorin OS qui est basé sur Debian. Voilà. Debian. Donc, même Ubuntu. Debian. Oh, c'est vrai. Non, Ubuntu même. Voilà, ça m'évite de le dire comme ça. Donc voilà pour le point distrowatch.com. Et on finit par notre dernière petite rubrique.
Eh bien, dis donc.
Les amis, un petit café. Il est 21h56. Un petit café, les amis.
Petit café.
Eh non, ça sera un petit logiciel. Je vous ai eu le petit logiciel pour la route. C'est parti. Un café. Un Dijon. Non. Un logiciel pour la route. Petit. Le petit logiciel pour la route. Alors, qu'est-ce que nous avons choisi pour cette première ?
WCD.
WCD. Oh, mais qu'est-ce ?
Qu'est-ce que c'est ?
WCD,
c'est vrai que le nom n'est pas super parlant.
Non, il n'est pas super parlant, mais en fait, vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est. Mais c'est... Voilà, bon, je laisse Alain faire
c'est
son topo.
C'est un logiciel de gestion de connexion réseau. Donc, gestionnaire de connexion Wi-Fi, gestionnaire de connexion filaire. Ce qui est super pratique, donc c'est, en gros, ça ressemble pas mal à Network Manager. Moi, Network Manager, j'ai jamais trop réussi à...
C'est comme Pulse Audio. C'est comme Pulse Audio, ça marche pas forcément.
Voilà, ça plante souvent.
Ça plante souvent, oui.
Ça plante trop souvent. C'est pas souvent, ça plante trop souvent. Voilà.
Arrête, on va perdre des actions, on va perdre des auditeurs.
Ah ouais,
ça
non,
continue
non,
à les
c'est
taper
vrai que
sur
moi,
les...
j'ai des problèmes avec Network Manager. Des fois, j'hallucine, quoi.
Mais toi, tu dois utiliser NDSolver Wrapper.
Non,
j'ai un pilote libre.
La dernière fois...
C'est quoi, t'es Broadcom, c'est ça?
Ouais, Broadcom.
Ah oui, Broadcom, ouais. Pas de marque.
La dernière fois, il me met... J'étais un petit peu loin du réseau Wi-Fi de la maison, donc j'étais dans ma chambre. Je me dis, tiens, je vais me connecter sur le réseau Wi-Fi des voisins. Et ben, ils voulaient pas.
Ça arrive souvent. Moi, c'est pour les hotspots publics que c'est pire.
Ils voulaient pas switcher de réseau Wi-Fi. Mmh. Donc, du coup, j'ai mis WCD à la place.
Ouais.
Et WCD, ça marche vachement mieux.
Ça marche très bien. Bon, il a juste une interface vieillotte en GTK.
Ouais,
que
voilà.
Il faut installer, en fait, il faut expliquer, il faut installer WCD. Et puis ensuite installer WCD JTK pour
voilà,
avoir
pour
l'interface graphique sous GNOME.
Ça se gère également en ligne de commande.
Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce que j'allais rajouter par rapport à ça? C'est que je ne sais pas comment c'est maintenant dans Windows 7, parce que je l'ai pas utilisé, mais est-ce que tu sais si on peut créer des profils de connexion?
Il me semble que oui, ça a été...
Ouais, ça y est, c'est possible, ça existe.
C'est possible que ça existe maintenant.
Toujours est-il... Parce que donc auparavant, c'était pas possible et...
C'est possible. Je vais regarder. Mais je pense que c'est maintenant possible. C'est peut-être ce que tu parles de... Réseau domestique, non, par exemple?
Non, c'est
non,
pas ça.
C'est
non,
pas
c'est
ça.
Pas les réseaux domestiques.
Toujours est-il que déjà, dans Windows 7, on peut avoir le VPN de mis en, par défaut.
D'accord.
C'est plutôt pas mal. Ça, le VPN, on va en parler un peu plus
donc,
tard.
Voilà. WCD, il permet donc de créer des connexions filaires et Wi-Fi par profil. Par exemple, pour la connexion filaire, on n'est pas obligé de mettre soit en DHCP, soit une IP fixe, suivant l'endroit où on est avec son portable. Moi, je me rappelle quand j'étais en formation à l'AFPA.
Peut-être que tu passais par un autre DNS, par d'autres serveurs DNS.
Déjà, tu changeais de DNS. Quand j'étais à l'AFPA, j'avais une IP fixe, masque de réseau un petit peu particulier, etc. etc. D'accord. Ensuite, quand j'arrivais chez moi le soir, hop, je me branchais en filaire, c'était du DHCP tout simple. J'ai pas besoin, comme dans, je me rappelle, Windows XP, il fallait relancer le réseau et tout.
Ouais.
C'était une galère papos. Après, il fallait se souvenir quand tu retournais et qu'il te fallait une IP fixe, il fallait te souvenir de c'est quoi ton IP, c'est quoi les DNS, c'est quoi ton masque de ce réseau, c'est quoi l'adresse de broadcast, c'est quoi la passerelle par défaut. Donc si à chaque fois il faut se rappeler de tout ça, tandis que là avec WCD, on rentre ses profils, paf, et puis quand on se connecte, on se branche, on lance le profil, on est connecté.
J'ai découvert justement cette fameuse, le fait de pouvoir customiser son DNS. Donc, de ne pas le faire attribuer automatiquement par les fournisseurs d'accès à Internet, style Orange et tout ça. Donc, et de pouvoir accéder, par exemple, je sais que Google fournit des DNS.
Oui.
Je ne l'ai pas utilisé parce que, bon,
non,
on se doute bien que si Google prend vous fournit des DNS, c'est forcément pour avoir
plus,
une idée derrière la tête.
En plus, ils ont eu la bonne idée de mettre des adresses IP de DNS hyper simples à retenir.
Oui, 8.8.6.6 et l'autre, je ne sais plus. Le deuxième, je ne sais plus.
8.8.4.4.
Ah oui, 4.4.
8.8.8.8.
Ouais, c'est vrai que...
Si tu ne te rappelles pas. Oui. Mais ceci dit, moi, je m'en sers de temps en temps pour des tests.
Ouais.
Quand je vois que ça ne marche pas sur un DNS, pour voir si ce n'est pas un souci DNS, j'essaye sur les DNS.
J'utilise OpenDNS. Il faut s'inscrire sur le site et tout. J'ai pas trop été voir si c'était un site libre ou ce genre de choses là. À voir, on fera des recherches s'il existe des DNS libres.
Non, je crois pas. OpenDNS c'est pas libre.
C'est pas libre.
C'est une
compagnie qui fait ça.
Oui, et puis il croque un peu sur la neutralité du net, c'est-à-dire que quand on arrive sur un site qui n'existe pas, le 404 Not Found redirige. Alors je sais pas si c'est toujours le cas.
Quand je l'ai utilisé il y a
3-4 ans,
ouais.
L'erreur 404. Non, pas l'erreur 404.
505.
Je sais plus, quand un site n'existe pas.
406,
bref,
607.
Merci pour ta participation.
Je t'en prie.
Donc en gros,
504
quand
internal error server.
Non. Quand un site n'existe pas, boum, alors attends. Oui, bah il n'y a pas de code erreur.
T'as qu'à hacker carnet.org.
Donc quand un site n'existe pas, il renvoyait, plutôt que d'afficher la page de base, le site n'existe pas, machin, il renvoyait vers le site d'OpenDNS, je crois.
Ah ouais, d'accord.
Donc c'est pas top.
C'est vrai que pour la neutralité, il y a...
C'est moyen.
Il y a mieux que ça. Donc voilà, c'était notre petit logiciel pour la route, WCD.
WCD.
À installer. De mémoire, WCD n'est pas... c'est pas le client qui gère le plus de réseaux, hein, parce que il y a des clients intégrés directement dans les distributions, hein, et en général c'est pas ni WCD ni parce que Network Manager est mis en, je crois que c'est même Network Manager.
C'est Network Manager, et KDE aussi,
je confirme, parce qu'il y a l'interface.
Alors, je sais
et
pas
tout,
pourquoi ils mettent pas WCD, qui est beaucoup plus simple.
Il m'a l'air toujours plus performant.
Ça
que
fait moins usine à gaz, quoi.
Oui, voilà, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, bon.
Ouais.
On posera peut-être la question, je sais pas à qui, mais on posera sans doute la question. WCD, le petit café logiciel distro, 10 jours que j'allais dire. Hop, digestif. Moi j'ai perdu mon retour.
T'as perdu ton retour, c'est ballot.
Voilà,
et retour. Pas moi, c'est bon.
Et ben voilà. C'était le petit logiciel café 10 jours pour la route. C'est la fin de notre émission.
Oui.
Dis donc, on l'a vu galoper à une vitesse.
Ouais,
et ben quand on regarde par contre l'enregistrement, on se rend compte qu'on est déjà à 1h14. Donc il serait peut-être temps de lâcher nos auditeurs. Là.
Qu'est-ce qu'on jacte, c'est dingue.
Mais oui, mais non, mais en fait, on a 7 minutes déjà de musique. Hein.
Ah, et ouais. Bah voilà.
Et voilà, on
je savais bien qu'il fallait pas mettre de musique.
Ah, c'est Thomas qui va ravir. Hein.
je vais râler sur Thomas.
Ah, c'est clair, tu vas râler sur Thomas. À mon avis, il va pas être content, le pauvre. Donc, d'ailleurs, un petit coucou à nos amis de Ch'tinux, parce que je sais qu'ils l'ont fait dans leur émission tout à l'heure. Donc, un petit coucou à vous, mes amis de Ch'tinux.
Hein. Salut Ch'tinux.
Salut Ch'tinux. Hein. Alexandre, le président. Thomas, évidemment, qui fait les news avec lui. Tim, à la technique, qui nous mitonne des petites musiques libres. Merci d'ailleurs à lui, parce que c'est grâce à lui si j'ai pu prendre la musique d'aujourd'hui. Mais bon, rassurez-vous, on ne fera pas non plus que copier chez Ch'tinux. Et puis il y a Pierre aussi, Pierre à qui j'ai piqué la dégicalisation. Paix en ton âme, Pierre. Et donc un petit coucou à nos amis de Ch'tinux. Et pour vous signaler aussi qu'un petit projet est en train de voir le jour. Mais ça, on vous en dit pas plus. On vous en dira dans les prochaines semaines. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme la dernière fois.
Ça me sidère, ça.
Ça te laisse les bras ballants.
J'hallucine.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à faire cette émission. Voilà, on a rajouté certaines petites choses pour que ça soit quand même plus convivial. Réécouter la première émission, je pense que ça va vous faire un choc. Ouais, avec tous les « qu'on a pu faire, les 15 minutes de...
Moi, je rajouterais aussi,
vas-y, Alain.
Parce qu'il y en a qui se posent la question, la licence de l'émission.
Oui.
L'émission est sous licence CC by NCSA.
Tu nous l'as décrit
C'est-à-dire... Oui. mention de la paternité, pas d'utilisation commerciale et partage des conditions initiales à l'identique.
D'accord. Donc, en gros, on risque pas de se faire piquer quand même notre émission.
Non.
Non, bon, ça va. Je pense que ça va plaire à beaucoup de libristes, cette idée, tiens, de pas piquer l'émission.
Ouais, mais je vais te piquer l'émission. Mais je vais te piquer l'émission aussi. Moi, je vais te piquer l'émission.
Ok, d'accord, j'arrête mon jactage. C'est la fin de Enflux Libre épisode 4. Non, vous entendez je cite toujours un générique derrière, mais nous, on l'a pas en retour chez nous. Avec à l'animation Alain Devarieux, mon cher Alain.
Et Ghislain Larose.
Merci à toi d'être toujours là à mes côtés. Merci Alain. Et puis on vous retrouve, si tout va bien, dans 2 semaines pour de nouvelles aventures linuxiennes et libristes. Alors je vais pas le faire le bye bye comme la semaine dernière parce que je me suis rendu compte quand j'ai réécouté l'émission que je faisais bye bye. Non, je vais faire juste bye bye, je vais même pas faire de bye bye. Je vous dis donc tous les commentaires de l'émission comme d'habitude enflulib.tuxfamily.org, ça c'est le site internet pour les commentaires. J'espère qu'on aura le temps d'y toucher d'ailleurs la semaine prochaine ou dans les 2 prochaines semaines. Ouais. Et évidemment, si vous voulez déposer des petits tweets, c'est identi.ca/enflulib. Mais bon, je sais qu'il n'est pas très fréquenté. Non. C'est vrai que c'est...
Vous pouvez également
nous retrouver.
Vous abonner sur la page Google Plus Enflulib.
On va pas tarder à la quitter, cette page.
Ah bon ?
Parce que c'est Google Plus.
Ah bon ?
On est une éthique quand même.
Ah ouais. Bon.
Allez, salut les amis. Je vous dis à la dans 2 semaines. Salut Alain. Bye bye, non. Bye bye, ça ira. Bye bye, voilà, je le dis bien. C'est mes origines, pas mes traits toujours. Salut les amis, ciao. Prochaine ou les semaines suivantes, on vous fera un petit topo sur le serveur X. Donc il y a encore en dessous du X.org, ce qu'on appelle le X Window System. Ah si, c'est au-dessous. Bah si, c'est en dessous. C'est un serveur X.
X.org, c'est le serveur X.
X. Donc il gère le X11.
Xorg, c'est... Oui,
Xorg. Oui, mais c'est quand même en dessous pour moi. Non, moi, dans ma tête, je le mets en dessous.
Xorg, c'est le serveur X.
Aidez-moi, je suis en train de me...
Xorg, on coupera, mais...
c'est vrai X, ouais. D'accord, ok. J'ai dit une grosse connerie, là. Je suis pas sûr qu'on coupera. Peut-être que j'ai envie de laisser le truc. Ah non, on va le mettre en easter egg.